Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez Anthologie de la création, dirigée par Daniela Brocorne, diffusée en direct jeudi 22 mars 2018 de 10h45 à 11h45 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Eh bien, bonjour à tous. Je devais recevoir François Billot de Lochner, c'était annoncé, et Pierre Farid. Hélas, la grippe a sévi, ils sont malades, l'un est empêché, l'autre est malade. Et voilà, donc bien entendu, j'ai une excellente invitée en direct, Marion Sigaud, que j'ai déjà reçue la dernière fois et qui devait être reprogrammée le mois suivant. Eh bien, elle a eu la gentillesse d'avancer cet entretien et j'en suis ravi. Donc, on va reparler de La Marche Rouge, qui était éditée à Contre-Culture. Avec des K, hein, K, K.
K, oui, c'est pas très joli comme ça, mais, non, mais... c'est joli quand c'est écrit.
Voilà. Et un autre livre qu'elle a préfacé, dont nous avions à peine parlé l'autre fois, de G. Le Nôtre, c'est un pseudonyme, nous en reparlerons, et c'est un homme du début du siècle et qui est paru et qui a fait un livre qui s'appelle Sous la Révolution, paru chez... De Gors, et nous aurons au téléphone l'éditeur Sébastien De Gors, qui est en Alsace, je crois. Hein. Voilà, et comme d'habitude, je vais lire une page de mon anthologie de la poésie critique et subjective. Non pas la poésie critique et subjective, mais l'anthologie est critique et subjective. Voilà, et nous parlions du roman de La Rose, le plus célèbre des romans courtois, et nous comparions à Chrétien de Troyes, qui, lui, a écrit un demi-siècle avant. Donc, les oiseaux vont nous permettre un second rapprochement entre cette nouvelle page du roman de La Rose et un passage tiré divin de Chrétien de Troyes. D'oisiaux chantant à voix assez, partout le verger amassé, en un le à voix rossignose, d'autre part jet et estourniose, si ravoie ailleurs grand escole de roitiose et de tortole, de chardenorio et d'arondelle, etc. Et comme d'habitude, je lis la traduction de l'ancien français, un peu plus longue, puisque les premiers vers sont pour donner le ton et la sonorité. Il y avait nombre d'oiseaux chantant par tout le verger assemblé. Ici étaient des rossignols, là des geais et des étourneaux, ailleurs encore de vastes écoles de roitelets, de tourterelles, de chardonnerets et d'hirondelles, d'alouettes, de mésanges, etc., etc. Ils faisaient un bien bel office, ces oiseaux que vous énumèrent. Le chant qu'ils chantaient était tel qu'il semblait venir d'anges du ciel. Ces chants étaient si doux et beaux qu'ils ne semblaient pas chants d'oiseaux. Ainsi, peut-on les comparer au chant des sirènes de mer qui, pour les voix qu'elles ont sereines et claires, sont appelées sirènes. Et voici une page divin, un passage divin de Chrétien de Troyes. Dès que l'itance fut très passée, vit sur le pin tant amassé oiseaux, c'est qui croire m'en veuille, qu'est ni paroi, branche, ni fouelle, qu'étos ne fût qu'auverse d'oiseaux, s'en estoie les arbres plus bio. Dès que le temps fut apaisé, vit sur le pin telle assemblée d'oiseaux, il faut m'en croire, qu'on n'y voyait ni branches ni feuilles, que tout était couvert d'oiseaux, ce qui rendait l'arbre plus beau. Et chacun des oiseaux chantait, et tous entre eux ils s'accordaient, mais avec des chants différents, car jamais ce que l'un chantait par un autre je ne l'entendais. J'avoue que chez Guillaume de Loris, l'évocation des anges et surtout la comparaison du chant des sirènes, avec le jeu de mots entre sereine, saine, sérène, sont trouvailles de poète, ce qui sauve indubitablement ce texte. Cependant, aucune image n'est à la hauteur de cet arbre à plumes, peuplé de chants divers et pourtant accordés, qu'on trouve chez Chrétien de Troyes. Comme souvent, Guillaume de Loris est un peu pesant. Il tire à la ligne. Sur des centaines de vers vont débattre de fin amour, laideur, chasteté, fraude, malheur, génieuse, etc. Cet interminable bavardage est évidemment l'ancêtre à la fois de la préciosité du roman classique et de la psychologie du roman moderne. On est alors aux antipodes de la poésie. L'obsession de l'énumération et du nombre, qu'on retrouvera fatalement chez Corneille, Raymond Roussel, Raymond Queneau, Georges Perec et plein de modernes, eh bien, se signale notamment au vers 1372 et suivant, où on en apprend, entre autres, que les lapins font l'amour de plus de 30 manières. Il s'agit bien là, comme il est dit en exergue, d'un art d'amour dont l'amour tout cru ne saurait s'évader. Quant à la continuation de Jean de Main, qui, un demi-siècle plus tard, ajouta quelques 17 000 vers aux 4 000 de Guillaume de Loris, qu'en dire ? Il commence par un démesuré discours moral où se retrouve toute la psychomachia habituelle, puis il se lance dans une interminable rhétorique, plus ou moins étayée de tous les auteurs antiques. On y trouve par exemple l'art et la manière de rire, de pleurer, de se tenir à table, des propos sur l'hygiène, la grivoiserie, des attaques contre le mariage, les ordres mendiants. On y rencontre aussi une envolée pré-pascalienne sur la circonférence et le centre. Et déjà, l'affligeante théorie de Rousseau sur l'origine de l'inégalité et le mythe ridicule du bon sauvage. Enfin, on peut apprendre sous cette plume de fameuses vérités, par exemple sur les hommes, « grand péché et doum escouillé », c'est-à-dire c'est un grand péché de castrer les hommes, et sur les femmes, c'est pire encore, « tout est serait ou fuste, de fait ou de volonté, puste ». Bon, je vous passe la traduction.
Oh non. Je la veux.
Vous l'avez comprise. Alors qu'on ait érigé tout cela comme une somme de connaissances dans l'histoire des années, dans l'histoire des idées au XIIIe siècle, pardon, je le veux bien. Mais à l'évidence, si Guillaume de Loris fut un poète dévoyé et fort inférieur à Chrétien de Troyes, Jean de Main ne fut pas poète du tout. Eh bien, rebonjour. Oui, sur la Belgique du Puy du Fou. Rebonjour Marion Sigaud.
Bonjour.
Stanislas, lui, vient d'arriver.
Oui, bonjour ça. Daniel.
Voilà, alors nous en étions, la dernière émission, à la Marche Rouge. Et nous commencions à nous apercevoir qu'à Paris, il y avait des enlèvements d'enfants. On est au XVIIIe siècle et c'est très mystérieux. Alors, pourquoi, comment on s'aperçoit de ces enlèvements et comment le peuple, on peut dire, réagit?
Hein? Alors, on a les premiers frémissements de l'opinion à travers les mémorialistes. C'est comme ça que l'historien travaille beaucoup. C'est-à-dire que le mémorialiste permet de situer les événements. Puis après, on va fouiller plus avant pour en avoir les tenants et les aboutissants. Donc, on a Barbier et le marquis d'Argenson qui signalent que au mois de septembre, octobre, la police enlève des gens qu'on dit sans aveu. Et la chose s'était déjà produite en 1720. Des ordonnances de police décident d'arrêter des gens sans aveu. C'est quoi les gens sans aveu? C'est les traînards. Hein.
Des gens qui n'ont pas de métier ou qui
n'ont pas de
font
métier,
la manche,
qui,
des choses
qui,
comme
voilà,
ça.
Qui font la manche, ouais. Qui mendient de façon agressive, enfin qui importunent les passants et les braves gens. Et les ordonnances policières d'enlèvement de gens sans aveu, ça sent très très mauvais parce qu'il va y avoir des abus, ça n'a pas loupé. On raconte, et j'ai vérifié dans les documents judiciaires, notamment dans les archives du procureur général, Monsieur Joly de Fleury, qui a un gros fonds d'archives disponible dans lesquels on trouve beaucoup de choses, qu'effectivement, à l'automne, on enlève des gens dits sans aveu, et notamment des jeunes gens enlacés qui marchent dans la rue, tac, tac, on leur met le grappin dessus, vous traînez, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est extrêmement mal vu, je veux dire, là, il y a une vieille légende qui consiste à croire qu'on avait le droit de tout faire sous l'Ancien Régime, pas du tout, les droits des gens, c'était quelque chose d'extrêmement pointu, et que la population savait très bien revendiquer. Alors, les ordonnances contre la mendicité étaient extrêmement sévères. Elles étaient extrêmement sévères, on en a parlé la dernière fois, hein, la façon qu'a eu l'hôpital général de vouloir régler le problème de la mendicité par l'enfermement, le renfermement, comme on disait alors,
obligatoire. Oui, et qu'a accepté Louis XIV.
Que Louis XIV a accepté de façon un peu surprenante, enfin non pas surprenante si on connaît la situation, c'était au lendemain de la Fronde, la magistrature disait, Majesté, nous voulons nous occuper de la mendicité, Louis XIV a pu dire, bon, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, faites, mais laissez-moi gouverner par ailleurs.
C'est ça, donc, c'est l'éternelle rivalité du Parlement et du pouvoir.
C'est comme aujourd'hui, en fait, les clochards, ils sont la journée dans la rue et la nuit à l'hôpital, au frais du contribuable.
Ouais. Je ne sais pas, parce que quand les mendiants étaient à l'hôpital, ils n'étaient plus au frais du contribuable, là, ils rapportaient gros. Parce que le roi payait, les mendiants travaillaient, l'hôpital général a été le lieu de toutes les pillages et toutes les exactions financières, c'est absolument insensé.
Les combines.
Quand l'archevêque de Paris est arrivé à la tête de l'hôpital général, je crois qu'il a divisé par 10 ou 15 le budget boucherie de l'hôpital général. C'est-à-dire qu'il s'en mettait pas plein les poches. Oui. Donc ça a baissé. Et puis le roi payait, le roi donnait sur sa cassette une espèce de prix de journée. Donc plus on raflait de mendiants, plus le roi payait.
Et cet argent-là c'était au mendiant.
Largement détourné. Enfin bon, c'était une gestion rigoureusement scandaleuse. Donc pour revenir donc à ces enlèvements, ouais. les premiers enlèvements commence, ne touche pas des enfants, mais des jeunes gens. Ça sent mauvais, c'est-à-dire que les gens se disent, ça y est, c'est le Mississippi qui recommence. Alors, qu'est-ce que c'est que le Mississippi? Bon, c'était en 1720, c'était prendre des gens des hôpitaux, des gens dans la rue ou des gens dans les hôpitaux, pour les envoyer au Mississippi, c'est-à-dire pour aller peupler la colonie qui allait rapporter des mille et des cents aux actionnaires, lesquels actionnaires avaient été convaincus par le système de l'eau qu'on allait pouvoir faire fortune en dormant. En dormant. Alors,
là,
pour que les uns puissent faire fortune en dormant, il fallait que d'autres aillent trimer dans les colonies. Et c'était la raison pour laquelle on avait, à l'époque, enlevé des enfants. Donc, de 1720 à 1750, c'est pas beaucoup, c'est juste une génération. Le souvenir est encore vivace. Hein. Si vous aviez 25 ans en 1720, vous en avez que 55 en 1750. Si on voit que ça recommence, on en a le souvenir cuisant. Hein. Voilà. Donc la population commence à se demander ce qui se passe. Donc méfiez-vous, tenez-vous serré le long des trottoirs. Voilà, ne vous laissez pas prendre. Et puis on a également des témoignages que des gens ont été arrêtés dans des maisons. C'est-à-dire qu'il y avait une institution, notamment dont le nom m'échappe, une institution religieuse qui donnait asile à des jeunes filles qui arrivaient de la province pour se trouver une place comme domestique. Donc elles n'étaient pas encore sous contrat avec un maître. Eh bien, il y a eu une rafle qui a été faite dans une maison rafler. C'est odieux, c'est absolument odieux. Je veux dire, c'est contraire au droit, c'est contraire à la loi, c'est contraire à la tradition.
Alors ces gens,
c'est une exaction. Ouais.
On ne les retrouve pas, ces gens, ou ils disparaissent, ou ils vont.
Alors, j'ai pas recherché ceux-là. J'en ai recherché d'autres et on les a retrouvés.
Les enfants.
Et petit à petit, on commence à enlever les enfants. Et alors, il y a des plaintes qui commencent à pleuvoir, des gens qui viennent en disant on a enlevé mon gamin sur le chemin de l'école. Il y avait notamment un limonadier qui s'appelait Marion. Alors lui, c'était pas son prénom comme moi, c'était son nom de famille, le limonadier Marion. Des exempts, c'est-à-dire des agents de police, avaient enlevé son fils. Et l'enlèvement du fils Marion, la corporation, c'est la solidarité ouvrière, hein, c'est quelque chose d'extrêmement vivace sous l'Ancien Régime. Les corporations de métiers, c'est le tissu de solidarité urbaine. Hein, c'est comme ça que ça se passe.
Excusez-moi, les policiers à l'époque, ils sont pas en uniforme ou ils ont une sorte d'uniforme?
Ils ont une sorte de défense, mais ils savent se faire passer pour...
Des bourgeois.
On sait très bien, le lieutenant général de police sait très bien habiller ses exempts en gens de métier. Alors, ils se déguisent très mal, c'est comme ça qu'ils se font repérer. Comme Javert. Je ne sais pas, j'ai pas de souvenir précis de Victor Hugo, parce que je ne l'ai pas lu d'ailleurs, Victor Hugo, je ne l'ai vu qu'à la télévision.
Il apparaît aussi, Javert. L'usine à verre.
Sans doute. Donc, on a l'exemple d'un exempt qui s'était déguisé en boucher pour aller commettre ses exactions sur un marché. Et tout le monde a vu que c'était un faux boucher. Il était grimé en boucher, quoi. Comme un homme se déguise en femme pour faire croire. Donc, il exagère ceci et cela. Puis tout le monde voit que c'est du... Tout le monde voit que c'est du
cirque. Quand il commence à découper un beefsteak, évidemment, on se rend compte que c'est
pas... Oui, mais comme ils étaient là pour enlever des enfants, ils n'étaient pas là pour, découper des beefsteaks. Et ils étaient là, effectivement, donc ils savent se déguiser, les exempts, pour enlever des enfants. Donc l'enlèvement du fils Marion déclenche une cavalcade, hein, la solidarité joue, on arrête les enleveurs et on les mène à la police, on les mène à la justice, et le gars, il est jugé au Châtelet, enlèvement d'enfants, et puis 15 jours après, on le retrouve dehors. J'ai dit, mais quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors là, les gens commencent à parler, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, le gars, il a enlevé mon fils, enfin, il a enlevé le fils du copain, il a été jugé, il était reconnu coupable, il est en prison, et il ressort, et il recommence hein. Et il recommence. Donc,
surtout qu'à l'époque, c'était pas le sursis dans des cas comme ça.
Oui, oui, oui. C'était le Châtelet direct.
Châtelet
était une prison affreuse. Hein. Ouais. Alors, il y avait des prisons grande classe. La Bastille, c'était la prison 3 étoiles. Oui. Alors, être
forçade,
en Bastillé... Notamment, puis pour Voltaire aussi, la Bastille, c'était la prison chic. Oui. Vous y alliez avec vos domestiques, vous passiez commande de vos menus.
On recevait.
Le gouverneur de la Bastille a fait savoir à monsieur de Voltaire que c'est pas parce qu'il lui avait autorisé de recevoir des visites qu'il devait transformer la Bastille en salon parisien. Donc vraiment.
C'est là où on aurait mis Sarkozy en garde à vue à l'époque, par exemple.
Quelque chose comme ça. Donc.
Il y a l'équivalent, il y a les quartiers de haute sécurité, pas de haute sécurité, mais les quartiers.
Oh non, je sais, je suis sûr que la prison, enfin je peux étudier le problème de près, mais je suis sûr que la prison c'est quelque chose d'extrêmement dur. Je sais bien, pas pour tout le monde, mais je suis sûr que c'est extrêmement dur. Donc le Châtelet c'était une prison très très dure. C'était moche, c'était sale, l'état de droit s'arrêtait plus ou moins à la porte, quoi.
Oui,
Louis XIV, quand il avait créé toutes ces institutions, il avait voulu que l'autorité du roi soit visible jusqu'à la dernière extrémité, puis il y avait toujours moyen de détourner. Donc le gars, il est emprisonné au Châtelet, et puis quelques jours après, on le retrouve dehors. Donc là, la cavalcade recommence, puis les gens commencent à parler. Alors, les mémorialistes nous disent, il paraît vraiment qu'on enlève des enfants. Mais alors, il y a une rumeur qui circule qui dit qu'il y a un prince ladre, c'est-à-dire lépreux, qui fait enlever des enfants pour les saigner aux quatre membres et se faire des bains de sang, parce que sang des jeunes enfants étant plus pur que les autres, il va se guérir de sa lèpre. Donc, c'est sur ce genre de rumeur complètement... aberrante, quoi. Je veux dire, même si on sait dans l'absolu que ça existe, si ça avait existé à ce moment-là précisément, ça, c'est pas une rumeur qui l'aurait fait. Je veux dire, voilà. Donc, c'est une fausse nouvelle. Et grâce à une fausse nouvelle, on cache la vérité. C'est un truc très, très astucieux. C'est-à-dire qu'on fait circuler des fausses nouvelles pour dire... N'écoutez pas les gens qui vous disent qu'on enlève des enfants, c'est faux. Et il y a des historiens, alors je ne donnerai pas de nom, mais il y a des historiens, j'ai trouvé notamment sur une histoire de la police en bibliothèque, des historiens qui ont repris l'affaire en disant « on a accusé indûment la police d'enlever des enfants pour les mener à un prince ladre qui que quoi ». Les parents qui se plaignaient qu'on enlève leurs enfants, ils ne parlaient pas du prince ladre. Ils parlaient juste de leurs enfants, donc ils donnaient le nom, le prénom et le lieu de l'enlèvement. Donc,
oui, bien ça c'est comme aujourd'hui, quand on vous parle d'une impression d'insécurité ou d'un sentiment,
sentiment d'insécurité,
d'un malaise,
alors, il y a des enfants enlevés ou
bien
pas.
Sûr, bien
il y a
sûr.
Des enfants enlevés ou pas.
Oui, oui, voilà.
Donc, petit à petit, les enlèvements se multiplient. C'est-à-dire qu'au début, on a la plainte du limonadier Marion, après on en a une autre, puis on en a une autre. Et régulièrement, alors le travail des exempts n'est pas de tourpeau. Il n'est pas de tourpeau. Ils se font régulièrement prendre en chasse et casser la figure. Mais alors, il y a de ces cavalcades à travers Paris, c'est rigolo. Alors, un enleveur d'enfants, à moi la livrée, ou à moi les bouchers, à moi les charcutiers, à moi les ceci, à moi les cela. Quand un métier se mobilise, ça dégringole des étages, ça prend
les
gens.
Et au départ, c'était un peu les valets, non ?
Il y a des endroits où c'est vraiment les valets, c'est vraiment les domestiques.
Qui sont bien organisés, eux, et qui connaissent tout le monde.
À moi la livrée, alors là, ça fait dégringoler du monde des étages, notamment.
Parce qu'eux, ils sont introduits dans les maisons, etc. Ils savent un peu tout.
Le réseau de solidarité des métiers est très, très, très actif. Ouais. Et alors, il y a une caractéristique pour le métier de domestique, c'est qu'il n'est pas incorporé. Il n'y a pas une corporation de domestique.
D'accord.
Mais ça fonctionne quand même.
Presque mieux.
Non, ni mieux, ni moins bien. Ça fonctionne. Le principe de solidarité du métier, c'est quelque chose de consubstantiel à la société urbaine d'ancien régime. Tous les gens sont, qu'ils soient incorporés ou non, ils sont dans des réseaux de solidarité. Et il y a notamment au mois de mai, au carrefour de la Croix-Rouge, c'est-à-dire en plein faubourg Saint-Germain, il y a eu un enlèvement, deux enlèvements, trois enlèvements, et puis il y a eu des prises en chasse, il y a eu des plaintes. Alors les parents, quand on enlève leurs enfants, il y a un voisin qui vient, dis donc, on vient d'enlever ton gosse, quoi, qu'est-ce que tu racontes ? Donc les pères se mobilisent, on court derrière le carrosse, et une fois que le gosse est pris, enfin le gosse ou l'adolescent, ça peut être des tout petits enfants, ça peut être 8-9 ans, pas au-dessous, j'ai pas vu d'enlèvement au-dessous de...
Oui, parce qu'ils sont accompagnés, c'est peut-être
voilà,
plus difficile.
C'est ça. Mais enfin, des gosses de 8 ans, la maman dit, tiens, va me porter ça chez moi,
et
puis il revient pas.
Ouais.
Les enfants sortant de l'école à 11 ans, moi j'ai vu plusieurs cas d'enlèvement d'enfants de 11 ans sur le chemin de l'école. Alors on en profite pour voir que les gosses vont à l'école, parce qu'on s'imagine toujours que c'est la révolution qui a inventé l'école. C'est pas vrai, c'est Charlemagne qui l'a généralisé, c'était longtemps avant. Il y avait 500 écoles à Paris et les enfants commencent à se faire enlever sur le chemin de l'école. Donc les gosses, quand ils sortent de l'école, ils avancent groupés. Et bien ça n'empêche pas les exemples, ils arrivent avec un carrosse, ils bloquent les gosses, ils les attrapent, ça crie, ça hurle. Et c'est cavalcade sur cavalcade. Pourquoi est-ce que les exemples continuent ? Alors un, ils ont des ordres. Deux, ils sont payés à la pièce.
Pardonnez-moi, est-ce que la presse en relatait à l'époque ?
Il n'y avait pas de presse comme aujourd'hui. La presse, c'était...
Enfin, il y en avait un petit peu quand même, mais...
Il y avait des petites feuilles qui parlaient de ce qu'ils voulaient. C'était vraiment des trucs d'opinion. Il y avait les nouvelles ecclésiastiques pour les...
Pas de faits divers.
Non. Non. Bon, attendez. C'est pas parce que je dis non qu'il n'y en a pas eu. Je ne sais pas. Voilà. Moi, ce que j'ai étudié comme publication périodique, c'est les publications, c'est les gens de l'encyclopédie, c'est-à-dire les nouvelles littéraires, en fait. Les nouvelles littéraires et les nouvelles ecclésiastiques. Alors, les nouvelles littéraires, ça pouvait être soit l'année littéraire de Fréron ou d'autres. Enfin, c'était... Il n'y avait pas de journal comme au sens où on le verra naître plus tard.
Le petit Paris.
Mais la population parle. La population parle. Ouais. Donc, il est de plus en plus évident que les enleveurs d'enfants ont reçu des ordres. C'est clair et net. Ils sont payés à la pièce. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas lâcher leur proie. Et petit à petit, les réseaux de solidarité, alors au début, il y a les réseaux de solidarité qui se mettent en route, c'est les réseaux de métiers, puis après c'est tout le quartier. Puis il y a un enlèvement notamment qui a lieu Place des Vosges. Alors là, c'est extraordinaire, vous avez tous les domestiques qui se mobilisent, vous avez les voisins immédiats, vous avez le portier du comte de machin chouette qui descend avec l'avocat qui est à côté, tout le monde s'y met. Rendez ces enfants, et puis la police ne veut pas les rendre. Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, bon, y a des ordres qui sont donnés en haut lieu par la police, c'est-à-dire par le lieutenant général de police, Nicolas-René Berryer, a donné des ordres à ses agents. Les agents dépendent du Châtelet, et le Châtelet, ce sont les commissaires au Châtelet, sont des gens qui sont extrêmement respectés de la population. Quand un gosse a été enlevé et qu'on a une plainte à déposer, on va au Châtelet, et là au Châtelet, on va voir le commissaire de quartier, ça m'échappe. C'est au-dessus, voyez au-dessus. Ouais. C'est vraiment odieux. Alors c'est extraordinaire de voir que jusqu'à ce que des historiens au XXe siècle, notamment vous avez Arlette Farge qui s'est penchée sur le sujet, mais elle s'y est penchée sous un angle, elle s'est penchée sous un angle très intéressant, qui est la rumeur. C'est un angle d'attaque. Ouais. Un autre historien qui s'appelle Christian Romond s'est attelé à suivre plusieurs dossiers précisément, mais il n'y a pas eu d'étude exhaustive de fait sur ces enlèvements. Moi, je suis allé voir le dossier, je l'ai vraiment essoré. Je suis allé voir le dossier aux archives, parce qu'il y a un dossier il y a eu un procès, donc il y a eu un dossier au Parlement, et je suis allé voir également ce qu'avait raconté, ce qu'il y avait dans les papiers du procureur. C'est à la Bibliothèque nationale. Donc je suis allé regarder ça. C'est absolument odieux. On voit véritablement des agents payés par l'autorité publique pour enlever des enfants à leurs parents. Qu'est-ce qu'ils vont en faire?
C'est sur ordre de qui?
C'est sur ordre de Nicolas-René Berryer.
Oui, c'est ça.
Sur ordre de Nicolas-René Berryer.
Mais c'est pas à son profit, j'imagine.
Alors, c'est pas à son profit. On n'aura pas complètement le fin mot de l'histoire, mais pourquoi on n'aura pas le fin mot de l'histoire? Parce qu'il aurait fallu retrouver les gosses en question. Ben, en fait, on les a retrouvés, puisque les parents ont fini par leur faire lâcher prise. Alors, il y en a beaucoup qu'on a retrouvés à l'hôpital général. Oui. Moi, je suis allé chercher dans les registres de l'hôpital général, de la Salpêtrière, c'est-à-dire pour les petites filles enlevées. Alors il y a des gens qui ont dit oui, mais enfin, on raconte qu'ils ont enlevé des filles, c'est même pas vrai. Tiens, allez voir dans les registres de l'hôpital général du côté de la Salpêtrière, vous allez voir des petites filles arriver. C'est clair et net que des petites filles étaient arrivées. Ce qu'il y a, c'est que un historien américain tout à fait sérieux qui s'appelle Dale Van Clay, que je ne méprise en aucun cas, il a fait sa recherche, mais il ne connaissait pas l'hôpital général. Moi, quand j'ai fait mes études, l'hôpital général, on m'a tout de suite indiqué. Celui qui ne connaissait pas l'hôpital général et qui allait chercher ses enfants, soit au dépôt de l'hôpital de Saint-Louis, soit au dépôt soit au Châtelet, il ne les trouve pas, ils n'y sont pas. Ils sont précisément à l'hôpital général, et c'est là qu'on les retrouve. Et l'hôpital général, ayant des registres extrêmement bien tenus, on voit l'arrivée d'entrée, la date d'entrée, la date de sortie, et on voit que la plupart des parents ont récupéré leur progéniture. Je dis bien la plupart et pas tous. J'ai notamment trouvé à Bicêtre un jeune garçon qui avait 13 ans, qui a été enlevé par la police à sa mère. Sa mère était veuve, elle était sans appui, elle n'a pas revu son gamin. C'est horrible ça, c'est horrible. Le gamin est ressorti 2 ans plus tard et il n'est pas dit qu'il a été rendu à sa mère. Donc il peut très bien avoir été déporté, on ne sait pas où.
C'est ceux qui ont été récupérés par leurs parents. Alors ils ont parlé ou quoi?
Il y a énormément de témoignages des enfants qui ont été enlevés, des témoins, de ceux qui se sont opposés aux enlèvements. Il y a une hypothèse qui est plausible, mais qui à mon avis n'est pas suffisante, c'est que profitant de l'ordonnance d'enlever les gens sans aveu, les exempts en ont profité, alors éventuellement en connivence avec les geôliers, en ont profité pour racketter les parents. C'est-à-dire qu'on enlève les enfants et on fait payer, parce que tous les parents qui ont récupéré leurs gosses, ils ont dû payer et encore.
Bon. À la mexicaine, quoi.
C'est vraiment odieux. Mais à mon avis, ce n'est pas une explication suffisante. Parce que si c'était ça, ils n'auraient pas été payés à la pièce par le lieutenant général de police. Oui. Moi, je pense que l'exportation aux colonies est bien plus plausible.
Ce n'était pas une initiative personnelle.
Puisque c'est là. Alors, moi, j'ai une hypothèse là-dessus, parce que je n'ai pas encore le fin mot de l'histoire. Il faudrait continuer la recherche, mais comme je me suis orienté vers d'autres choses, j'aimerais que des étudiants en histoire reprennent la suite. Ouais. Il faut aller chercher du côté des colonies. Vous avez des penseurs, comme son nom m'échappe, qui disent, qui font un article également dans l'encyclopédie qui aura été repris, et qui dit tous ces enfants dans les hôpitaux, tous ces enfants qui ne servent à rien, on pourrait utilement revendre les nègres et les revendre, hein, j'ai bien dit revendre les nègres pour les remplacer par des enfants bien de chez nous qui pourraient faire souche et qu'on pourrait marier, etc. Or, et c'est là que ma recherche est devenue passionnante, s'il n'y a qu'à se servir dans les hôpitaux, pourquoi prendre des gosses dans la rue, hein, bonne question. Parce que les hôpitaux regorgent d'enfants dont les parents, sur lesquels leurs parents n'ont plus autorité. Et c'est bien connu que depuis Louis XIV, régulièrement, on va chercher des enfants dans les hôpitaux. Et alors, si on peut les prendre dans les hôpitaux, pourquoi va-t-on les prendre dans la rue? Bonne question. Sauf que précisément, 1750, c'est là que c'est pratiquement l'apogée de la grande affaire de l'hôpital général, où le roi a demandé à l'archevêque de Paris d'aller voir ce qui se passait à l'hôpital général. Donc l'hôpital général est maintenant sous la surveillance de l'archevêque. Eh bien, la prise en main de l'archevêque sur l'hôpital général et les premiers enlèvements d'enfants, c'est concomitant. Ça colle complètement. D'accord. Ça colle complètement.
Bien, vaste histoire. Il faut absolument que le public lise ce livre, La Marche Rouge, les enfants perdus de l'hôpital général. Et nous allons aborder l'autre livre que vous avez préfacé.
Il y aura encore beaucoup à en dire sur les disparitions d'enfants et sur la suspicion de réseaux pédocriminels. Hein, admettons, ce sera pour une autre fois, si vous voulez.
Pour une troisième fois. Parce que là, nous allons appeler notre ami
Sébastien de Gorce,
qui a publié ce livre Sous la Révolution de J'ai
très,
le nôtre,
très joli livre,
que vous avez préfacé et dont nous allons parler donc un peu avec lui techniquement. Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour, Sébastien de Gorce.
Oui,
Daniel Abrecorne.
Oui, vous allez bien ?
Ça va très bien. Nous sommes avec Marion Sigaud, bien entendu.
Oui.
Et nous allons évoquer maintenant, après avoir parlé de la Marche Rouge, le livre que vous avez édité, qui s'appelle « Sous la Révolution » de G. Lenôtre.
Voilà.
C'est bien ça. Préfacé donc par Marion Sigaud.
C'est cela.
Alors, je voulais préciser, enfin on va le faire après, mais techniquement, ce livre est très joli, et nous allons parler un peu technique, après avoir présenté ce livre. Eh bien, en réalité, ce G. Lenôtre, qui est un pseudonyme, il s'appelle, pour le situer, Louis Gosselin, c'est bien ça?
Oui.
C'est ça, et on va rappeler ses dates, 1800...
Louis Théodore Gosselin, je crois même.
Oui, il a trois prénoms, je crois. Enfin, moi, j'ai Gosselin. Donc, 1855-1935. C'est un très intéressant historien qui travaille vraiment dans le détail et la précision. Et ce pseudonyme qu'il a pris, en fait, il est arrière-petit-neveu, je crois,
du jardinier du roi.
Voilà, de André Lenôtre, jardinier du roi.
Voilà. Hein, voilà. Il a enlevé l'accent circonflexe sur le O.
D'accord.
Donc, c'est en un seul mot, le nôtre, et G pour Gosselin, tout simplement.
Ah, voilà, d'accord, parce qu'on pourrait dire c'est Georges. Non, pas du tout, c'est Gosselin.
Non, il y a beaucoup de libraires qui m'appellent et qui me demandent, j'aimerais avoir le livre de Gustave Lenôtre, de Gérard Lenôtre.
Effectivement.
C'est rigolo. Puis avec
il n'a pas mis de prénom, effectivement. C'est Gosselin. Donc, d'accord. Donc, il a été, à la fin de sa vie, élu à l'Académie française.
Voilà.
Au fauteuil de René Bazin, d'ailleurs, ce qui est tout de même intéressant. Et je rappelle qu'il est enterré, vous savez où ?
Allez-y.
J'ai posé une question, j'ai fait quelques recherches. et en plus des Lenôtre, j'en ai 4 ou 5 chez moi.
Un Picpus, non.
Exactement. Il est enterré dans le jardin de Picpus.
Wow. Et avec les guillotinés, donc.
Voilà, avec les guillotinés et la famille des guillotinés, et Lafayette, etc. Et effectivement, il avait fait un livre sur Picpus, justement.
Voilà.
Et sur les Carmes, etc. Bon, voilà l'introduction. Alors maintenant, ce très joli livre, moi, il m'a plu beaucoup. Je crois qu'il plaît beaucoup à Marion aussi.
Non, beaucoup, beaucoup. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marion.
Voilà. Eh bien, alors d'abord, la couverture où vous avez ressorti une gravure, on voit ces noyades épouvantables dans
les noyades de Nantes.
Voilà, les fameuses noyades de Nantes. C'est un très joli dessin de l'époque. Et cette couverture, j'ai été impressionné parce que moi qui étais éditeur, j'ai trouvé que la matité, la matière, le velouté est exceptionnel. Vous savez, tous les livres sont brillants maintenant ou pelliculés. Et en fait, ça, c'est original et très agréable.
Oui, alors j'ai essayé de faire une couverture qui n'était pas trop de tape à l'œil, parce que déjà, c'est le contenu est assez sanglant comme ça.
C'est vrai.
Quand on fait une couverture, on va chercher une image qui est adaptée. Dans notre esprit, on imagine une couverture. Et 90% du temps, ça ne marche pas. Il faut aller chercher des images, l'adapter au format final du livre, et on se rend compte qu'il faut qu'il y ait de la place pour le titre. Alors, parfois, il y a des images qui fonctionnent. Alors, cette personne, donc ce patriote, entre guillemets, je mets des gros guillemets au mot patriote, qui va donc noyer des prêtres, pour une première de couverture, ça marchait parfaitement. Il faut placer le titre, et c'était, si vous voulez, ça ne dansait pas, comme on dit dans le métier, ça s'intégrait bien avec le titre. Moi je trouve que ça fait un côté un peu toile de Jouy.
Oui, exactement. Oui, c'est à ça qu'on pense.
C'est un peu la couleur d'ailleurs.
Voilà. Et donc il y a un procédé donc pour la matité, pour le toucher un peu velouté, c'est dû à un pelliculage, soft touch. Alors comme vous l'avez dit, le pelliculage brillant, un peu surexploité.
Oui.
Moi quasiment tous mes livres sont faits avec du pelliculage soft touch. Donc
toucher doux en français.
Touch, ça veut dire
toucher doux.
Toucher doux. Effectivement, c'est très velouté. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et on en parle beaucoup. Je me demande pourquoi. Il n'y a pas plus d'éditeurs qui l'utilisent, les imprimeurs le proposent au même prix, donc voilà.
Bah vous voyez, quand ils auront tous fait cette expérience, il faudra passer à autre chose, comme d'habitude.
Voilà.
Mais là, on est encore dans l'originalité, heureusement. Et alors après, la première page, c'était aussi une toile noire et blanche, un peu papier peint aussi.
Ça, c'est un élément, vous savez, d'un endroit d'où vient ma famille. Donc moi, j'ai une très vieille famille de laboureurs, comme on dit, donc de paysans propriétaires à Saint-Hilaire-en-Lignières, dans le Berry. Et cet élément vient du portail du château de Lignières, dont j'ai fait moi-même le papier peint, si vous voulez.
C'était un papier peint.
D'ornementation également.
D'accord.
Je suis d'horreur, mais d'horreur numérique.
Ah, très voilà. Bien. Très intéressant. Et puis après, il y a la première de couverture, là, avec des emblèmes très très chouettes.
C'est les armes de la famille royale avec une petite devise.
Voilà. Et ça c'est vous aussi.
C'est très beau. C'est très beau.
C'est très chouette. Alors voilà, c'est pourquoi on a tenu à vous appeler parce que c'est vraiment. Et là il y a un frontispice aussi. Alors on voit un monsieur les quelques sans culottes là. Et c'est impressionnant.
Oui voilà, c'est à l'abbaye. C'est à l'abbaye, quand on
c'est le massacre de septembre.
Juste après la condamnation, pouf, on va les sabrer.
C'est ça, voilà. Ouais.
Parce que les gens n'étaient pas guillotinés. Hein, pendant les massacres de la Terreur, il y avait les noyades, il y avait différents expédients, mais quand on lit le nôtre, on se rend compte que les gens tout simplement devaient se mettre à genoux par terre et étaient tout simplement
sabrés à mort.
Tués à coups de sabre. Hein, les gens
étaient sabrés à mort.
Avec leurs bras, un peu.
Je me souviens juste. La sortie sous Robespierre, à la sortie du tribunal révolutionnaire, on était exécutés devant la porte du tribunal.
Dans les massacres de septembre, oui, tout à fait.
Ouais,
oui, c'est pour ça que le registre des crocs porte des taches de vin et aussi de nombreuses taches de sang, vous voyez.
Oui. Donc les juges n'étaient pas loin du lieu à 100 mètres du lieu d'exécution.
Si on peut appeler ça des juges.
Oui, si on peut appeler ça des juges.
Les gens qui allaient être jugés entendaient derrière la porte les gens qui venaient d'être condamnés se faire
massacrer. Assez épouvantable. Eh bien,
Oui. Moi, j'hésite toujours à faire un peu de comment dire, un peu de surenchère vis-à-vis du sang, etc. Je n'ai pas sorti le livre pour ça. C'est un livre qui est édifiant pour les lecteurs. Il n'y a pas que du sang, n'est-ce pas ? Mais ça fait partie de la chose. C'est des réalités qu'il faut voir. Parce qu'on nous présente la révolution sous le jour, vous savez, de l'émancipation, etc. Or, la réalité est tout autre et le sang fait partie.
Bien sûr.
Voilà.
On le sait, c'est épouvantable. Rien. On parlait du jardin de Picpus, mais il y a eu combien de morts là ? Combien de guillotinés enterrés là ?
Je ne connais pas les chiffres.
Plus de 3000, non ? Je ne les ai l'ai pas. Je ne les ai pas là. Oui, oui. Ouais. Il y a une. Je sais qu'il y a eu une souscription que beaucoup de gens se sont joints pour pouvoir garder ce carré qui est devenu juste un petit carré d'herbe.
Oui, on peut le visiter d'ailleurs.
On peut le visiter encore, etc. Donc il y a quand même.
Oui, parce qu'au départ c'était une fausse commune et c'était secret d'ailleurs.
Voilà.
Personne n'en parlait.
C'est une servante qui a réussi à avoir la formation et qui a lancé les choses.
Pour avoir des chiffres, je crois que le journaliste contemporain de l'époque, Louis-Marie Prudhomme, a fait une recherche sur le nombre de victimes. Je crois savoir que Louis-Marie Prudhomme a vraiment... Alors au début, il était très partisan de la Révolution et puis il a...
Oui, comme tant d'autres.
Comme beaucoup d'autres.
Chénier, Chénier, par exemple. Et comme beaucoup de victimes de la Révolution étaient très...
Mais il y a survécu, Louis-Marie Prudhomme.
Oui. Mais pas Chénier.
Il était...
Jusqu'à 2000 têtes par jour tombaient parfois en France.
Oui, mais voilà, pas par la guillotine. C'est pas,
non, non.
Par,
oh, par, il y avait par, des guillotines, voilà. De multiples guillotines qui coupaient aussi têtes en même temps.
Non, j'ai pas vu ça.
Non.
Même Daesh n'a pas réussi à faire ce
scandale. Non, j'ai pas vu ça.
Je vous donnerai les livres.
Ah oui, ça m'intéresse parce que j'ai jamais entendu parler de ça. De toute façon, bon, les gens qu'on affame, qu'on enferme et qu'on noie, il n'y a pas besoin de guillotine, quoi. On peut très bien les fusiller aussi.
Oui, parce que la guillotine, il fallait un servant, il fallait un aide.
Il y a une mise en scène.
On déshabillait les prêtres, on déshabillait aussi les bonnes sœurs, les jeunes femmes.
Et on les mettait ensemble.
On les mettait ensemble nus, en cordée.
Pour les noyer ensemble.
Mais le processus de la noyade a d'ailleurs un côté très très curieux, parce que cela paraît peu pratique, vous voyez, d'emmener des gens sur une gabarre, de la laisser couler à fond, et puis après de devoir assommer les gens qui sont dans l'eau, en sachant peut-être que les corps vont être rejetés. On a là-dedans, moi j'y vois de la précipitation et un aveuglement, vous voyez. Ça soulève beaucoup de questions, vous voyez, c'est un texte qui est très clair, qui se lit très bien, on n'est pas obligé d'être spécialiste de la Révolution pour le lire, mais il est très évocateur en même temps, vous voyez, on rentre vraiment dans une époque. Quand on ferme le livre et qu'on a l'impression d'avoir vécu les choses. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu le publier, ce livre-là. Il m'a vraiment touché.
C'est très très émouvant parce qu'effectivement on voit l'aspect vie quotidienne. Ce que j'ai bien aimé, parce qu'on dispose de beaucoup beaucoup de témoignages sur les noyades. Ce que j'ai bien aimé dans ce que raconte Gélenôtre, c'est qu'en fait c'est le début des noyades. C'est le début, c'est les premières. C'est comment l'idée leur est venue et comment ils ont fait les premières, quoi.
Par souci d'économie peut-être, non?
Alors il y a vraisemblablement par souci d'économie, et puis je pense également que...
Par souci de discrétion aussi.
Mais le principe du fleuve, c'est qu'il emmène ses victimes au loin, quoi.
Ouais.
Le fleuve va emmener à la mer, on ne retrouvera pas les corps. Donc on est obligé de les achever parce qu'un corps c'est plein d'air jusqu'à ce qu'il est coulé par le fond. Donc aussi longtemps que les gens sont vivants ou simplement qu'ils ont encore de l'oxygène dans les poumons, ils continuent de surnager, donc ils les assomment, mais... Au bout du compte, l'idée, c'est quand même la Loire va nous emmener ça au loin, dans la mer, et il n'y aura pas de témoins, il n'y aura pas de traces, quoi. Ouais. Enfin, c'est ce que je comprends, moi, avec ma logique.
Et l'équipe de Carrier, d'ailleurs, était justement dans ses essais, était plutôt fébrile, parce qu'on voit que les commanditaires, entre les commanditaires et les commandités, il y a beaucoup de renvois des responsabilités. On hésite, on dit les choses à demi-mot, on s'entraide.
Oui,
le génocide vendéen, c'est beaucoup ça aussi. Ouais. C'est vous m'avez compris à demi-mot, je suis sauvé, etc. Personne ne veut prendre la responsabilité de ses honneurs. Ils la veulent tous,
ils veulent des ordres écrits, etc.
Exactement. Et les ordres écrits, c'est pas facile.
On les comprend. Mais ils se doutaient bien que c'était une horreur. De toute façon, c'était une horreur évidente, même pour les salauds. Donc chacun se renvoie la responsabilité, se passe le couteau.
C'est-à-dire qu'on trouve plus de volontaires pour commettre les crimes que de volontaires pour les endosser. Hein.
On peut dire comme ça.
Parce que c'est pas forcément le crime, c'est aussi la perspective de devoir endosser la responsabilité, parce que le crime lui-même est commis, même s'il y a peut-être à certains moments le doute, ou alors l'aide de l'alcool. De toute façon, ces gens-là voulaient penser que leur mission de tuer ces gens-là était quelque chose de bien. voilà. Donc,
oui, je pense. Et puis, il y avait une promotion aussi. Il y avait une promotion. Hein. Ils cherchaient une place, ils cherchaient...
Je pense qu'à partir du moment où il n'y a plus d'autorité, à partir du moment où il n'y a plus d'autorité et où les valeurs morales sont mouvantes, c'est le pire qui l'emporte. Ouais. C'est comme ça. C'est la barbarie. Mmh. Encore que ce n'est pas gentil pour les barbares.
Pour certains barbares.
Mais c'est vrai, à partir du moment où il n'y a plus de référence commune pour tout le monde, c'est le pire qui l'emporte. Parce qu'il n'y a pas de... Je veux dire, où il y a pas de frontières, il n'y a plus de limites. Comme
ça, c'était une citation de qui déjà la fameuse bande dessinée, vous savez bien, des années de
Gottlieb,
1900. Bien antérieure. C'est la famille Fenouillard.
C'est dans la famille Fenouillard.
Quand on passe les bornes, il n'y a plus de limites.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on comprend.
C'est le père Fenouillard.
De ces déchaînements de violence, c'est ça qu'on comprend. Et on comprend également à travers le livre l'histoire de ce juge qui ne fait qu'appliquer rigoureusement la loi et qui n'endormira plus et qui va se faire.
Alors là, c'est l'autre histoire. Mais on n'a pas insisté, je pense, sur la responsabilité du carrier, tout de même, dans ces noyades. C'est tout de même lui qui dirige, c'est bien lui.
Bien sûr, c'est lui qui dirige, mais il a été condamné, finalement. Ouais, ouais. Bah, tout le monde, les autres se sont essuyés les pieds sur lui.
C'est ça. Ouais. Enfin, au départ, c'est lui qui dit qu'il faut les...
Pardon, Sébastien, que dites-vous ?
Les gravures portent son nom, souvent on voit le nom de carrier dessus.
On sait très bien que c'est lui, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les autres se sont essuyés les pieds sur lui en disant c'est lui qui est responsable, comme ça on a pu l'arrêter et le faire payer. Au-dessus, ils s'en sont tirés, quoi.
Comme d'habitude, le criminel cherche un fusible.
C'était un fusible idéal, Carrier, parce qu'il a bel et bien donné les ordres. Et puis c'était un type absolument odieux, quoi. Ça le faisait rigoler. Et puis
Lui, c'était un convaincu absolu.
C'est un vrai fanatique. Voilà, un authentique fanatique, comme il a.
Il reste quelques traces puisque Lénine est personnellement venu sur les bords de la Loire. Ah oui, Lénine a visité les bords de la Loire. Lénine était très intéressé par le génocide vendéen.
Je ne savais pas ça.
Ça a largement, notre révolution a largement inspiré, avec la Commune après, a largement inspiré les suivantes.
Ce sont les pères de tous les terroristes.
Le génocide arménien aussi, le génocide des Arméniens plus exactement. Génocide des Arméniens s'est inspiré également de la Révolution française. Pourquoi se gêner? Ils l'ont bien réussi.
Paul Pot, également.
Les Khmer Rouges, Rousseau. Le Bon Sauvage.
Enfin, je ne sais pas ce que le Bon Sauvage a à voir avec ça.
Avec les Khmer Rouges.
Pardon?
Avec les
Khmer Rouges. Les Khmer Rouges.
Paul Pot est venu et a fait ses études à Paris, je crois.
Bien sûr, d'autres.
Eh bien, moi, je me souviens, en 69, à la mairie de Clamart, où ma chère maman était conseillère municipale, nous avions reçu quelques jeunes Cambodgiens qui étaient venus faire leurs études à Paris et à qui qu'on recevait au titre des échanges culturels et de l'hospitalité française et tout. Et puis, quelques temps après, on a vu ce qu'ils étaient allés faire en retournant chez eux. On s'est arraché les cheveux.
Ce qu'on appelle les intellectuels.
C'était souvent les intellectuels, comme les
Tolstoy. C'était les intellectuels. Ils étaient à la Cité universitaire. Excusez-nous, Sébastien, on sort un petit peu du sujet, mais on est quand même globalement dans le sujet. Ils faisaient leurs études à la Cité. Enfin, ils étaient à la Cité universitaire à Paris et on les avait reçus au titre des relations interculturelles. Et c'est vrai qu'ils étaient venus en France. S'inspirer pour aller faire leurs horreurs. Les horreurs.
Les Vietnamiens aussi, etc.
Il y a un ancien torsionneur, je crois, dans les années 80 ou 90, il était professeur à la Sorbonne, on l'a retrouvé.
Le fameux, celui qui m'échappe. Oui, qui a été dans des camps de la mort, après Dien Bien Phu.
Comment il s'appelait?
Boudarel.
Ah, merci.
Je pense que pour revenir à Sous la Révolution, c'est vraiment un livre indispensable.
Très, très joli
parce que
livre.
Alors à la fois, c'est un bel objet, c'est un très bel objet, mais c'est vraiment la Révolution par le petit bout de la lorgnette qui donne la réalité de la vie de nos aïeux. C'est ça qui nous importe. C'est la réalité de la vie de nos aïeux.
Et c'est un travail de tisser message, c'est-à-dire c'est basé sur des lettres, des confessions, des manuscrits, des biographies, des gens qui ont, des gens comme vous et moi, des ouvriers,
exactement,
des servants, etc., qui ont écrit des choses. J'ai le nôtre à glaner, recouper, travailler et tisser un propos qui se lit un peu comme un roman historique, si vous voulez, mais tout ce qu'il y a là-dedans est véritable.
D'ailleurs,
lorsqu'il parle dans la conjecture, il le dit bien. Il dit, écoutez, cher lecteur, nous ne pouvons pas être sûr de ceci ou cela, mais ce qui est sûr, c'est que cette personne est allée ici, a vu cela, etc. C'est vraiment fait avec beaucoup de précision et d'humilité, c'est ce qui est important aussi à dire.
C'est de la vraie histoire.
Écoles, ouais, on parlait des écoles, etc. À l'instant, quand on lit Pierre Gaxotte ou J'ai le nôtre, qui était à l'Académie française, on voit que l'Académie française n'était pas encore le foutoir... voilà, qu'on a aujourd'hui, c'est un très un très très bon auteur. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui et j'ai voulu faire un petit livre pas trop cher, vous voyez, parce que bon, il y a aussi les ventes en librairie, vous savez, qui sont un peu difficiles. On sort un livre tout de suite, le palier psychologique des 20 euros est atteint, les gens ne vont pas forcément acheter le livre, ça va mal, etc. Moi, j'ai voulu faire un petit livre qui ne coûtait pas trop cher.
Il coûte 13 euros précisément, c'est ça.
Voilà, les gens peuvent se... Comment dire, je vais pas dire le mot éduquer, mais c'est vrai que c'est presque de la rescolarisation.
Oui.
En France, quand on propose des livres comme ça, c'est pour faire un complément à la scolarisation presque. Hein.
Mais beaucoup de gens me demandent, je reçois beaucoup de lettres, de demandes de parents qui me disent qu'est-ce que vous pouvez nous recommander pour lire de l'histoire. Alors maintenant, je vais savoir quoi répondre. Mais cher Sébastien, puis-je vous suggérer d'en publier d'autres sur le même format, sous la même présentation. Vous pouvez faire une collection.
Il y aura un petit livre de Babeuf sur la dépopulation. Il y aura le livre de J'ai le nôtre aussi sur Louis XVII.
Ah, ça doit être bien.
Ouais. Voilà.
Et les textes de J'ai le nôtre sont libres de droit aussi.
Comment ?
Ils sont libres de droit, les textes de J'ai le nôtre, oui.
Ah oui. Oui, bien sûr. Oui.
C'est encore plus intéressant.
Ah, c'est Louis
XVII.
Après,
moi, je les retravaille un petit peu. Vous voyez, s'il y a une erreur, s'il y a eu des erreurs dans l'édition originale.
Il y en a une. Vous avez dit 95 pour 85 dans le premier chapitre. Ça ne nous a pas échappé.
Est-ce que les tanneries de Pau sont évoquées dans cet ouvrage ?
Les quoi ?
Les tanneries de Pau.
Non.
Dommage.
Non, mais vous parliez de Louis XVII. Il nous reste 5 minutes d'émission. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, vous parliez des...
Ah bah, il y a d'autres livres de Gélonaute.
Louis XVII, vous parliez.
Que je suis en train de lire. Le Tribunal révolutionnaire également. Et,
Il a fait un livre sur les Carmes. Il a fait un livre sur Picpus.
Il a fait un
livre qui s'appelle aussi La Révolution, je crois, et que j'ai avec une belle reliure d'ailleurs, révolutionnaire avec des symboles. Mais
une biographie d'Armand de la Roirie, je crois.
Et
aussi.
qui parle de, en particulier de Robespierre.
Je ne sais pas.
Là où Robespierre a trouvé un foyer. D'ailleurs, pendant toute cette période.
Oui, chez les Leplay.
Chez les
menuisiers Leplay.
Il donne même le plan de la maison. Hein. Vous voyez, c'est très intéressant. Il a eu une relation avec la fille. Oh là là, il y a un très très long message. Tu peux le résumer peut-être ?
Oui, je vais même le lire vite. Bonjour madame, en Allemagne, dans les années 20, un certain nombre de femmes disparaissaient, enlevées, et on ne les retrouvait plus. Il y avait ce restaurant à Düsseldorf où l'on mangeait une viande succulente qui satisfaisait tous les clients. Le gouvernement s'est adressé à une agence célèbre de police qui a découvert que ce restaurant était à l'origine de l'enlèvement pour préférer les seins de ces pauvres femmes servi aux clients. Ceci est exact. Avez-vous pu vérifier si ceci est exact ?
Je n'ai jamais entendu parler de cette affaire, mais sachant ce que je sais sur les enlèvements d'enfants, rien ne m'étonne. Mais je ne connais pas ce...
Vous êtes plutôt 18e.
Je suis 18e, voilà. Point. Donc je ne connais pas. Et donc, en plus de ça, 18e de la France et pas de Düsseldorf. Mais, je pense qu'une information comme ça doit être prise au sérieux. Le pire
est souvent...
chair humaine.
Le pire est souvent, malheureusement.
De toute façon, les mangeurs de chair humaine le paieront très cher. On ne peut pas être cannibale sans le payer, ne serait-ce que physiquement. Anthropophage, sans le payer physiquement.
Donc, nous allons passer aux annonces. Alors, un rapide message, peut-être.
On précise, un auditeur de Radio Courtoisie précise qu'au cimetière de Picpus, il y a 1306 morts.
Merci.
Et une auditrice nous dit, une bonne histoire de France, c'est celle d'Henri Servien. Merci.
De
Henri Servien.
Henri Servien, ok.
Alors, les annonces, le 24 mars à 14h30 à Port-Royal devant la maternité, prière publique de SOS Tout Petit en réparation du crime...
D'avortement.
D'accord. Ouais. Ça donnait plus de poids, si c'est vous qui le dites. Et le 24 mars à 18h, un récital de piano en hommage à Debussy.
Alors, c'est à la Cusselière,
près d'Alençon. Et oui, l'adresse courriel, c'est folie de la Cusselière, en un seul mot, folie au pluriel, @gmail.com.
Voilà, on a tous les renseignements. Voilà. Très beau concert de piano.
Et notre prochaine émission aura lieu le 19 avril.
Le 19 avril.
Dans 4 semaines.
Bon, on a 2 minutes. Vous allez avoir évidemment le mot de la fin. On vous abandonne, Sébastien.
Oui. Écoutez,
et merci d'avoir participé à cette émission. Et nous reparlerons de vos livres. Informez-moi.
Hein. Quand vous le voulez, vous pourrez. Je vous enverrai un exemplaire de chaque livre qui passe.
Hein. C'est beaucoup. Mais vous m'envoyez une information et je vous demanderai le livre qui m'intéresse. Hein. C'est le mieux.
Bien sûr. Voilà. Je vous tiendrai au courant et je salue encore Marion.
Merci à vous, Sébastien. Et félicitations pour votre beau travail. Vraiment.
Merci.
Merci, Marion. À bientôt.
Au revoir. Au revoir, monsieur De Gorce. Donc... 1 minute. Marion, le mot de la fin, sous la révolution de J'ai le nôtre. Et puis la marche rouge, dont nous avons parlé 2 fois, mais pas assez, puisqu'on n'épuise pas ce sujet vraiment énorme. À contre-culture, donc la marche rouge par Marion Sugo.
La marche rouge, c'est vraiment le livre qu'il faut lire sur le passé pour éclairer le présent. Voilà, j'en dis pas plus. Et enlèvement d'enfants, voilà. Suspicion de réseau pédocriminel. Allez chercher dans l'histoire, vous comprendrez ce qui est en train de se passer.
Oui. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on n'en est malheureusement pas du tout épargné. Hein, et surtout dans les milieux de judiciaire et les milieux politiques.
Ah, mais tous les milieux, regardez ce qui est en train de se révéler en Angleterre.
Enfin, les gens qui ont le pouvoir.
Dans l'éducation nationale aussi.
Mais oui, alors on dit toujours les prêtres. Alors
on n'en parle pas sur service public, contrairement à l'émission sur les prêtres.
Il y a qui s'occupent d'enfants par rapport à des instituteurs bien laïcards qui s'occupent d'enfants. Il faut arrêter de taper sur l'Église pour les affaires de pédophilie. Il faut être un peu sérieux.
Pédomanie. Pédophilie, c'est l'amour des enfants.
Non.
Pédomanie.
Non. Le mot, ça n'existe pas.
Très bien. Eh bien, l'émission est terminée. Merci Marion Sigo. Et à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre Anthologie de la création, dirigée par Daniel Abrocorn, assistée de Stanislas, diffusée en direct jeudi 22 mars 2018 de 10h45 à 11h45 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016, Paris.